Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies. Voies V-O-I-E-S. Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de succès, de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Marie Roussin, qui est la showrunner, autrement dit la créatrice, de la série mixte disponible sur Amazon Prime Video, dont vous avez peut-être vu les publicités ça et là dans les transports récemment. La série se passe en 1963 dans un lycée de garçons qui accueille pour la première fois une poignée de filles. Et ça fait tout un bazar. Petit extrait de la bande-annonce en audio.
Les trois années qui commencent aujourd'hui vont marquer votre vie à jamais.
C'est le premier lycée auquel ça arrive.
Et on est dans la même pièce ?
Je croyais que c'était une blague.
Le lycée Voltaire accueille des filles.
J'ai l'impression que tout le monde me regarde.
C'est pas qu'une impression.
Tu penses qu'en seconde, elles ont déjà des seins ?
Ça te rappelle quelqu'un ?
J'ai une classe avec 4 filles.
Je sais que ça fait beaucoup.
Non, ça fait pas beaucoup, ça fait trop.
Disons-le tout de suite, j'ai adoré Mixte. Les dialogues sont savoureux, les personnages sont canons, les actrices et les acteurs jouent très bien et l'histoire fonctionne parfaitement. J'ai d'ailleurs trouvé dès le premier épisode que les personnages étaient très nuancés et je n'ai pas été étonné de voir que c'était une femme, qui est Marie donc, qui l'avait créée. La voici donc à mon micro pour parler de sa carrière de scénariste, mais elle nous parle aussi de son éducation dans une des rares écoles quasiment non mixtes dans les années 80 et ce n'est sans doute pas un hasard si elle a inventé cette série aujourd'hui. Elle nous raconte comment elle racontait des histoires depuis toute petite, comment elle s'inventait des vies à l'adolescence quand elle croisait des nouvelles personnes, sa passion pour les séries télé dès le plus jeune âge et comment elle a petit à petit bifurqué de la production dans les séries vers l'écriture de celles-ci. Marie nous raconte aussi les spécificités du métier de showrunner, rôle qui est venu tout droit des États-Unis et la façon dont elle a travaillé sur Mixte en particulier, qui est la première série qu'elle showrun, si je puis dire. Un grand merci à Marie, cette interview est très riche, j'y ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. On est donc avec Marie Roussin. Salut Marie.
Salut.
Comment ça va?
Très bien.
Ça va?
Ouais.
Marie, tu es autrice.
Oui.
Scénariste.
Scénariste. Ouais.
C'est plutôt.
C'est-à-dire que tous les scénaristes sont des auteurs et tous les auteurs ne sont pas forcément des scénaristes. Donc,
toi,
en l'occurrence, moi, je suis scénariste.
C'est vraiment le truc que tu as décidé de. Enfin, c'est la voix, le média que tu as décidé d'utiliser depuis que tu es.
Ouais.
Depuis que tu fais ce métier.
Depuis que j'écris professionnellement, en tout cas. Parce que, enfant et tout ça, j'écrivais des petites histoires, mais c'était pas.
On va reparler de tout ça. Et t'es aussi, et l'une des raisons pour lesquelles je t'ai contacté, c'est que j'ai regardé ce week-end avec ma fille ta série, parce que je crois qu'on peut le dire comme ça. Mm-hmm. C'est ta série qui s'appelle Mixte, qui est disponible sur Prime Video, enfin sur le service d'Amazon, qui est une série, on en reparlera un peu après, mais qui met en scène pour la première fois une classe mixte dans les années 60, début des années 60. Et vraiment, on regarde le premier épisode, je me dis putain, c'est bien écrit, c'est féministe et tout, c'est cool. Tu sens que les personnages, ils sont plutôt très nuancés et ça fait plaisir. Ouais. Et puis à la fin, je vois, écrit par créé par Marie Roussin, je fais ah donc c'est une meuf, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est bien. Ok. Ceci dit, il y a plein de séries qui sont écrites par des mecs qui sont bien aussi. Oui, mais oui, je trouvais que j'ai trouvé une sorte de lien qui était évident et je me suis dit je vais lui écrire, je vais à tout prix rencontrer cette fille et qu'on discute ensemble de son métier et tout. Je suis très heureux aussi de t'avoir parce que effectivement c'est un métier scénariste qui est assez peu connu en France et que je crois en plus que t'as envie de faire connaître d'après ce que j'ai entendu dans tes quelques apparitions médias c'est un truc que t'as envie de faire connaître. Oui. Ça me fait très plaisir vraiment de t'avoir. On va parler de tout ça.
Merci beaucoup.
La première question que je pose à tous mes invités, Marie, c'est à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans?
7-8 ans, une petite fille, garçon manqué. Ouais. J'étais dans une école de garçons. Donc,
t'étais dans une école de garçons.
C'est le truc un peu bizarre, mais je pense que c'est lié au... Enfin, la série et ouais. La série mixte n'est pas arrivée par hasard
mais
dans ma vie.
Mais ça existait encore. En fait, c'était pas si vieille, hein, excuse-moi.
Non mais si.
Sans rentrer,
en fait, non mais c'était c'était l'un des derniers bastions non mixtes donc privés hein, parce que pour le coup dans le public évidemment c'était mixte depuis très longtemps et c'était donc à la fin des années 80 et curieusement parce que évidemment j'aurais plus évidemment pu aller dans une école de filles quitte à être dans du non mixte, mais curieusement mes parents m'ont envoyé dans une école de garçons parce que mon grand frère était scolarisé là-bas et ils acceptaient dans cette école les petites sœurs de garçons déjà inscrits ou les filles des profs, et donc on était 3 pour 180 garçons à peu près par niveau, voilà. Ouais. Et j'ai passé de ma troisième année de maternelle jusqu'à mon CM2 compris voilà, dans une école de garçons.
T'en as déjà reparlé à tes parents sur ce choix qui est quand même particulier, enfin fin des années 80 comme tu dis.
En fait, je pense que pour eux c'était juste pratique, et ce qui est assez intéressant en revanche, parce que ça je trouve que ça on dit long des stéréotypes de genre, c'est que bien évidemment si ça avait été moi la grande sœur et mon frère le petit frère, si moi j'avais été envoyée par exemple dans une école de filles, jamais mes parents n'auraient envoyé mon petit frère dans une école de filles parce que c'était juste plus pratique, parce que on allait chercher les deux à la même heure le soir.
Alors, en tout cas, donc, on peut pas, on n'est pas sûr, mais a priori on peut le présumer.
Oui, je présume très fortement que si ça avait été un petit frère, il se serait pas retrouvé dans une école de filles. Alors qu'une petite fille dans une école de garçons, ça ne peut être que du bon. Finalement, elle va être un petit peu plus courageuse, peut-être plus casse-cou. Enfin, tous les clichés, on y va tranquillement. Quoi.
Ouais, ouais. Et ouais, donc t'as grandi là-dedans, c'est-à-dire que.
Oui, oui. Non, mais c'est pour ça qu'à 7 ans, pour le coup, j'étais vraiment. J'ai grandi avec des albums Panini, Italia 90, Foot 91. Je connaissais le nom, le poids, la taille de tous les joueurs du championnat de France, du championnat du monde, enfin la Coupe du monde pour 90.
Parce que c'est pour les gens qui sont plus jeunes que nous, qui savent pas, c'est qu'à l'époque Panini, donc qui est un éditeur d'albums, de stickers, d'autocollants, pour chaque Coupe du monde, je sais pas si ça existe encore, peut-être ça existe encore aujourd'hui,
oui.
Ils éditaient un album où tu faisais la collection de tous les joueurs.
Je suis certaine que ça existe encore parce que j'ai entendu un enfant l'autre jour qui réclamait pour l'Euro 2021 son album Panini, et j'étais j'avais presque envie de l'acheter, je me suis dit non quand même.
Ne retombe pas là-dedans, Marie.
Non, mais c'est ça. En fait, sur mon lit, il y avait des photos de Maradona partout et tout ça. Donc, j'étais vraiment.
Et tu jouais au foot ?
Bah non, parce que évidemment, les garçons, pour le coup, ne voulaient pas jouer avec moi.
Bien sûr.
Donc, je jouais jamais au foot, en fait. Enfin, à part.
T'aurais eu envie de jouer au foot ?
Quand j'étais à la campagne ou machin avec mes parents, mon père jouait au foot avec moi. Ou voilà, ou quand on était. Très peu de copains, je pouvais jouer au foot, mais dans la cour de récré, non, les garçons, ils me laissaient pas jouer au foot avec ça. Non.
Mais ouais, tu m'as pas répondu, t'en as reparlé à tes parents de ce choix de.
Oui, non, mais enfin,
ok.
Ouais, pour eux, c'est vraiment pas si intéressant que ça, quoi. C'est bon, c'était pratique, c'était une bonne école. Quoi.
À quel point tu as la sensation que ce parcours en école primaire t'a marqué, toi, en tant que meuf que tu es aujourd'hui, là?
Ouais, beaucoup. Beaucoup.
Notamment
non, mais alors,
parce que
déjà,
j'ai écrit cette série.
Non, mais la première chose à dire, c'est que quand même, moi, j'ai un très bon souvenir. Mais je pense que j'ai un très bon souvenir parce que, enfin, moi, j'aimais l'école, en fait. J'étais très bonne élève. J'adorais ça. J'avais des cahiers. Quand je vois à quel point je suis bordélique et brouillon aujourd'hui, c'est drôle, mais de me souvenir qu'à l'époque, mais il y avait rien qui dépassait, quoi. Mes cahiers, ils étaient impeccables et tout. S'il y avait la moindre rature, j'aimais pas, je préférais arracher la page et réécrire tout et tout ça. Enfin, j'étais complètement, et donc, j'aimais l'école. Donc, forcément, bon, quand on aime quand même, c'est tout est plus facile. Et après, moi, j'étais très à l'aise, je pense. Mais voilà. Mais ça, c'est un petit peu la loterie, quoi. C'est-à-dire que il y avait des filles qui n'étaient pas particulièrement contentes et qui auraient sans doute été beaucoup plus heureuses dans une école mixte, quoi. Vraiment mixte, j'entends.
Tu veux dire des filles parmi les
filles parmi les garçons.
Parmi tes deux autres potes.
Exactement.
Ouais. Les deux autres meufs de l'école.
Enfin, selon les années, il y en a eu. Une fois, on a été quatre dans la même classe. C'était vraiment. On était très nombreuses, quoi.
Waouh. Ouais. Et j'imagine que quand tu rentres au collège, tu rentres dans une école, dans un collège mixte ou...
Alors c'est là que il y a eu une petite douche froide. Je suis entrée dans un collège qui était mixte officiellement, mais qui pour le coup avait deux tiers de filles, parce que c'était anciennement un collège de filles, c'était toujours dans le privé, et donc il y avait des garçons pour le coup dans une proportion qui n'avait rien à voir avec la disproportion, ouais, que j'avais connue à l'école primaire, mais il y avait deux tiers de filles et là pour le coup ça a pas été facile, bah parce que
tu veux dire que la sororité est pas automatique, c'est ça?
Ah non, elle est vraiment pas automatique. Non, je confirme. Ouais. Et puis elle est pas automatique, et puis moi j'avais pas les codes, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi forcément je parlais aux garçons parce que sinon j'avais vraiment vraiment quand même pas beaucoup de potes avant. Donc moi j'étais à l'aise avec les garçons et je leur parlais, et donc ça c'était pas bien vu.
Parce que sous-entendu tu l'es dragué ou...
Ouais,
oh non, en plus
ouais.
Collège il y a un peu ce côté,
ouais,
il faut être bien séparé.
Il
sinon...
faut être bien séparé, ouais. Ouais. Début du collège en tout cas, il faut être bien séparé, donc non, ouais, ça allait pas, ça allait pas du tout.
Tu t'es fait harceler, vénère et tout?
Non, parce que... non, mais j'étais une grande gueule quand même, donc je veux dire, on m'emmerdait pas, quoi, il y avait pas... Mais il y avait des filles méchantes, ouais. C'était pas, je veux dire, c'était pas harcelé façon... je me sentais pas minuscule contre 30 personnes qui étaient dégueulasses avec moi. Il y avait déjà les garçons m'aimaient bien, donc ça faisait quand même une partie de la classe. Mmh. Et puis il y avait des filles qui m'aimaient bien aussi, et puis il y avait des gens que moi j'aimais beaucoup évidemment. Et puis bon, il y avait le petit lot d'abrutis ou de connasses habituels. Enfin voilà. Quoi, c'est...
qui sont en plus, c'est terrible parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu. C'est un peu aussi le fruit du patriarcat, tu vois, de monter les meufs les unes contre les autres, de les inciter à se comparer, etc. etc.
Ouais,
c'est
un peu
le, c'est un peu le jeu. Hein. Mm. Est-ce que tu écris déjà à l'époque? Quand est-ce que tu as commencé à écrire?
Oui, j'écris déjà à l'époque, ouais. Ouais, parce que j'ai un cahier qui existe encore. Je sais plus où, mais je sais que je l'ai gardé, parce que quand je l'ai retrouvé, j'ai quand même trouvé ça très drôle.
Quel bonheur.
Où j'ai écrit un premier scénario de film, et donc à l'époque au bic à quatre couleurs, et donc je mettais des tirets, parce que j'écrivais ça comme des dialogues de roman en fait, avec des petits tirets, et j'écrivais des tirets de couleurs différentes pour les personnages différents qui parlaient, et j'avais commencé un brillant scénario, un film qui s'appelait Un surf pour trois. Tantan.
Quel talent. T'avais quel âge? C'était au collège?
Non, c'était au primaire, ça. Ouais.
Primaire.
J'avais, je pense, 8-9 ans.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter des histoires comme ça?
Ça, je m'en souviens pas.
Ah, tu sais pas?
Non, ça, je pense que je me suis toujours raconté beaucoup d'histoires. J'ai même eu, alors ça c'est vraiment marrant, mais j'ai recroisé une de mes deux copines de primaire il y a quelques années. Et elle me dit, mais c'est pas vrai, c'est trop drôle et tout, que tu sois scénariste. Elle me dit, je suis sûre que ça va faire rire ma mère, parce que ma mère se souvient que t'inventais des histoires tout le temps. Et moi, ça, j'avais oublié. Et elle me l'a rappelé, en fait. Il y avait toute une période où mon jeu, c'était quand quelqu'un me disait comment tu t'appelles et tout ça, et j'inventais totalement et je disais un autre, enfin je créais un personnage en fait, et je disais je m'appelle Laurence et blablabla, et voilà, et j'inventais des histoires tout le temps, et ça je l'avais oublié par exemple. Mais donc en fait ça fait très 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 longtemps quand même que je raconte des histoires à moi ou à mes peluches ou...
Bah ouais. Ouais, ouais. Tes parents viennent d'où, ils font quoi dans la vie, ou ils faisaient quoi dans la vie?
Alors, rien à voir à moitié en réalité. Au niveau de mes parents, rien à voir en effet. Mais mon grand-père paternel était auteur de théâtre.
Ah.
Ouais. Et alors après, moi, il est mort quand j'étais vraiment petite, j'avais 6 ans et demi. Et donc, je l'ai vraiment connu comme juste, c'est mon grand-père, quoi. Comme une petite fille connaît son grand-père. Et pas du tout, ou alors si j'en ai eu vraiment, je n'en ai pas le souvenir, mais je pense n'avoir jamais eu de grandes conversations sur l'écriture, l'imagination, oui, les personnages, et tout ça avec lui. Hein. Mais là où je pense que ça a joué, c'est que, alors même pourtant que j'y ai jamais pensé, enfin, il n'y a pas eu un seul moment petit où je me suis dit, ah, c'est ça, je vais faire ça dans ma vie. Alors là, pour le coup, pas du tout. Et en plus, comme j'étais bonne élève, justement, c'était plutôt... En fait, je séparais complètement les deux, en fait. J'étais bonne élève et je traçais ma route. Puis quand j'étais au collège, au lycée, je savais pas du tout. Quand on me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu veux faire comme études? Je sais pas du tout. Mais je traçais ma route de bonne élève. Et en fait, ce que j'écrivais, ça, c'était à côté, quoi. Et donc, c'est bien plus tard que je l'ai pris au sérieux. Mais au moment où je l'ai pris au sérieux, je pense que le fait de savoir que mon grand-père... a vécu de son métier, et ça a été un auteur qui a eu beaucoup de succès, mais pour le coup dans les années 50, enfin ça remontait, et je pense que ça a joué dans le fait de pouvoir le prendre au sérieux et de se dire en fait on peut réussir à en vivre, quoi. Et donc là, à ce niveau là je pense que ça a joué. Après consciemment je mentirais en disant que je vois un lien, parce que franchement...
Mais c'est déjà un lien énorme, en fait. Le fait que ton grand-père puisse te dire qu'il y a une forme de rôle modèle dans la famille où tu peux te dire « Ok, c'est possible d'en vivre », c'est déjà beaucoup.
Oui, il y a le côté « C'est possible d'en vivre », mais après, vraiment, je l'ai tellement peu connu. Ouais. Et puis mon père voulait pas nous bassiner avec notre grand-père et tout ça, donc... il s'est toujours dit, s'ils ont envie de me poser des questions, s'ils sont curieux, s'ils ont envie de lire. Mais moi, je la connais très mal, l'œuvre de mon grand-père. En fait, il y a des gens qui la connaissent beaucoup mieux que moi, que je croise aujourd'hui, qui me disent, telle pièce, ou je sais pas quoi. Et en fait, parfois, c'est des pièces que j'ai pas lues. Donc,
très intéressant.
C'est un drôle d'héritage.
Ouais. Ouais, ouais. Comment se passe, à quel moment, en fait, pour toi, ça commence à devenir un truc potentiellement concret, ou tu te dis, tiens, c'est un truc dont j'aimerais bien faire mon métier?
Alors là, c'est vraiment plus tard. Parce qu'en fait, il y a eu une première charnière qui était quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu une télé dans ma chambre, alors que j'avais des parents qui n'étaient pas du tout pro-télé. Mais justement, c'était le côté bon élève. En fait, on questionnait pas, quoi. Genre, j'avais des bonnes notes, ça voulait dire que ça allait, enfin, je sais pas.
T'avais demandé donc une télé, c'est ça?
Mais oui, mais en fait, c'était un coup de bluff. C'était pour mes 12 ans. Mon père me dit que t'as une idée de cadeau d'anniversaire. Et je réponds, ouais, une télé dans ma chambre. Et j'ai dit ça, mais comme j'aurais dit une Ferrari, enfin, si tant est que j'avais aimé les voitures, mais genre, j'aurais pu dire un voyage sur la Lune, j'aurais pu dire. Et c'était vraiment du bluff. Et il me regarde hyper déçu, il fait « Oh, c'est nul, mais bon ». Et là, je vois que quand même, il avait l'air déçu, donc c'est qu'il prenait le truc au sérieux, enfin, il réagissait. Et donc, je me dis « n'ajoute rien, on va voir comment ça se passe ». Je me suis dit « non, bah en fait, il a l'air juste déçu, mais il me demande pas « Bon, mais pour de vrai, tu veux quoi, en fait ?» Il était juste déçu par cette idée qui lui semblait vraiment naze de vouloir une télé. Et une semaine après, j'avais une télé dans ma chambre et j'étais là. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai, pour le coup, beaucoup regardé la télé après. Et
tu regardais quoi à la télé?
Des séries.
Ouais.
Ouais. Ouais. Vraiment.
Déjà.
Vraiment, ouais. X-Files et tout ça. Là, on est. Ouais. X-Files, les années collège, les années coup de cœur. Et, ouais, ouais.
C'est avec ça que t'as grandi.
Parce que bah oui, là,
t'as pas. Non, la trilogie, c'est venu un peu plus tard, c'est ça.
Trilogie, j'étais au lycée. Ouais. Je pense. Ah, quoique, non, au collège, parce que quand j'avais 13, 14 ans, c'était les grandes années X-Files, donc je pense que c'était déjà la trilogie du samedi.
Ok. Ouais. Bon, pour les jeunes, hein.
Oui.
Enfin, on va vous expliquer un petit peu, tu vois. C'est le père Fouras. Il vous explique qu'en fait, à l'époque, sur M6, le samedi soir, il y avait un truc qui s'appelait la trilogie du samedi soir où il y avait trois séries. C'était cultissime, n'est-ce pas? Et donc, il y a eu plein de super séries qui sont passées par là, et notamment Buffy.
Qui sont devenues après énormes. Buffy,
je l'ai découverte plus tard, en plus. C'est okay. Ça qui est drôle. Parce que Buffy, j'étais tombée dessus plusieurs fois et à chaque fois, je zappais et je trouvais ça ridicule, ces espèces de fronts plissés et tout ça.
Ah.
Et puis, c'est vachement plus tard, quand j'étais en prépa HEC, qu'une copine me dit « Mais non, mais c'est super !» Et je lui dis « Non, c'est pas possible, à chaque fois que je tombe dessus, ça a l'air naze. » Elle me dit « Marie, tu devrais regarder, c'est super. » Et donc, je regarde une fois un épisode en entier et je me dis et là, je me suis retapé toute la série. On en était à la saison 5. Donc, je me suis mangé tous les DVD des 5 saisons. Et j'ai vu les 6 et 7 au moment où elles sortaient, quoi. Ouais.
Kim Buffy, qui, je crois, historiquement, est l'un des premiers persos féminins. Peut-être tu vas me dire non.
Mais alors,
tu vas me dire que c'est.
Moi, je.
Apostrophe.
J'en connais beaucoup, hein, des séries, mais ouais. Je suis pas une historienne de la série, donc je pourrais pas jurer. Je pense qu'il y a eu des. Bah, il y a eu, oui, Arabesque.
Arabesque, pas apostrophe, ouais, ouais. Pas du tout.
Mais non, mais je pense qu'il y a eu d'autres persos géniaux de femmes, mais. Mais bon, Buffy, c'est sûr que c'est un des. Enfin, la série est géniale, en fait. Hein. La série est vraiment géniale. Donc voilà, bref, donc je regardais beaucoup de séries.
T'as grandi avec des séries, alors.
Ouais, j'ai
regardé. Pas de films, des séries.
Très peu de films, ouais.
Ok.
Ouais. Et puis. Non, en fait, c'était. Ouais, je regardais beaucoup de séries et je lisais beaucoup. Mais j'allais très, très peu au cinéma.
Qu'est-ce qui t'intéressait dans le format série en particulier?
Je pense que c'était vraiment le rendez-vous, l'attente, la frustration, le qu'est-ce qui va se passer après, quand est-ce qu'ils vont enfin s'embrasser, ce genre de choses. Ouais.
Qui est un truc effectivement qui existe moins dans le film, parce que tu.
Oui.
Il y a un début, il y a une fin. Et...
Non, mais je pense que le film, c'était juste. En fait, mes parents allaient très très peu au cinéma, donc j'y allais très peu. Et puis, donc j'y allais, oui, de temps en temps, ado, avec les copains, mais je veux dire, c'est pas de la cinéphilie, c'est pas le deux fois par semaine et tout ça, quoi. On est très loin de ça.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Et tu parles du rendez-vous, c'est très intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui avec les plateformes, la temporalité a complètement changé et il y a plein de gens d'ailleurs qui s'accordent pour dire que l'énorme succès de Game of Thrones est aussi dû au fait que c'était un rendez-vous le dimanche soir, donc le lundi pour les gens en France, etc. Là où aujourd'hui, est notamment mixte. Les 4 épisodes sortent d'un coup, et puis après les 4 autres épisodes sortent d'un coup, et c'est vrai que t'as pas ce truc d'attendre la suite, quoi.
Et encore, avec Mixed, il y a cette petite semaine, puisque les 4 premiers épisodes, sont sortis le 14 juin, et la fin de la saison une semaine plus tard, et moi j'étais hyper contente
d'avoir ce gap.
Oui, oui. Mais oui, parce que, j'adorais attendre l'épisode suivant, anticiper, le plaisir de l'anticipation et puis on pouvait avoir des échanges plus longtemps sur un épisode et pas sur une série d'un coup. En fait, Je trouve que ça passe trop vite. Sinon, je comprends complètement parce qu'en tant que spectatrice, quand je peux, je binge, clairement. Mais en fait,
mais tu pourrais ne pas binger.
Je pourrais, mais le problème c'est que il faudrait que je ne binge pas en même temps que plein de gens.
Que le reste du monde ne binge
et,
pas.
Exactement. Okay. Et ça, et c'est drôle parce que j'étais aux États-Unis il y a pas très longtemps et je parlais à des scénaristes qui bossent depuis 30-40 ans là-bas et tout ça. Et alors pour eux, c'est vraiment une révolution en fait, le fait de pouvoir binger des séries. Mais et ils aiment pas du tout.
Ah oui, j'allais dire positive ou négative. Ouais.
Non, plutôt négative. Eux en fait, c'est marrant, c'est vraiment leur témoignage à eux, mais ils disent mais enfin, quand on travaille pendant un an sur une saison, c'est hyper agréable de voir les gens parler des épisodes après épisode, alors que là, on a l'impression de travailler un an, et puis en un week-end, le lundi matin, il y a tous les commentaires sur la saison, et puis trois jours après, on n'en parle même plus, on passe à une autre série, et alors qu'ils sont là, mais on a bossé pendant un an, et en fait, en trois jours, c'est fini. Alors que à l'époque où il y avait 22 épisodes qui étaient diffusés tout au long de 9 mois disons d'année scolaire et tout ça, il disait au moins on voyait le public qui regardait la série pendant un an. Et pourtant en fait, ils regardaient pas plus d'épisodes que maintenant, mais ils en parlaient beaucoup plus longtemps, ils avaient le temps entre deux épisodes il y avait les discussions machine à café quoi, c'est vraiment oh, t'as vu l'épisode d'hier, mais il s'est passé ça, mais c'est fou, mais oh là là, et tu crois qu'il va se passer quoi après, et bon bah ça c'est vrai que maintenant
t'as plutôt peur de spoiler les gens dès que tu parles des séries quoi.
C'est ça, mais à l'échelle d'une saison entière tout de suite, et donc c'est plutôt waouh, qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine, et puis t'as vu, et puis bon, c'est vrai que les discussions elles sont hyper rapides, il y a pas, et puis donc je pense que ça change l'attachement au personnage quoi. Moi j'adorais j'en parlais il y a pas longtemps, mais Friends par exemple, j'ai eu l'impression de grandir alors en même temps que moi j'étais plus jeune que les personnages quand la série est sortie,
mais ils ont évolué.
Ça a été 10 ans et je les suivais et c'était génial quoi, et bon, très certainement là aujourd'hui des gens découvriraient la série aujourd'hui, ils pourraient binger, il y a beaucoup à binger hein, dans Friends, oui. Mais bon, au final, ils pourraient le faire très très vite, jamais plus personne ne grandira avec eux quoi. Voilà.
Mais... c'est très intéressant. Mmh. Et je crois d'ailleurs, j'ai pas mal d'amis autour de moi qui me disent moi j'ai annulé mon abonnement Netflix parce que j'ai un peu fait le tour, il y a plus grand-chose de nouveau et tout, alors qu'il y a tellement de contenu, et je me dis c'est quand même dommage de la part de Netflix, tu vois, de justement balancer tout leur contenu, parce qu'aujourd'hui tu peux prendre t'en as des caisses et des caisses, plutôt que de le disséminer, les gens continueraient je crois à regarder Netflix.
Mais je pense qu'on va...
ils vont revenir, tu penses?
Moi, je vois pas. Ce serait mon pari, mais pour le coup, là, j'ai non seulement aucune info top secrète ou je sais pas quoi.
Révélation.
Ouais, voilà. C'est mon avis et ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression qu'on va finir par revenir à ça. Même, je pense en effet, même pour eux, enfin, je veux dire, même par calcul, ça semble plus intéressant de mettre des choses et de les faire durer plutôt que...
Et puis c'est vrai que Netflix diffuse parfois des séries au même rythme que la télé US en France. Mm-hmm. Et je trouve que c'est trop canon. Bah, The Good Place, ils ont fait ça. Better Call Saul, ils faisaient ça aussi, tu vois. Et moi, j'adorais vraiment avoir ce truc. J'avais mon rendez-vous, quoi.
Mais oui. Ouais, moi, je trouve que c'est un grand plaisir.
Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, ça permet... je trouve que ça permet un autre truc qui est fou, c'est que quand tu rewatches ta série... Tu la rewatch, donc en général tu regardes plusieurs épisodes d'affilée et en fait tu la consommes pas de la même manière de ça.
Ah ouais, c'est très bien.
T'as oublié des liens, t'as oublié des trucs entre les épisodes, parce qu'en fait parfois en une semaine, moi je me tape pas l'épisode de la semaine d'avant pour. Les scénaristes font des liens hyper fins que toi tu captes pas sur le moment et que tu recaptes à la revoyure. Ouais. Et je trouve ça trop canon quoi.
Moi, c'est un peu, on est un peu des vieux cons peut-être, hein, j'en sais rien, mais bon, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein.
Mais c'est vrai que ça, j'imagine que pour vous, en tant qu'auteur, autrice, ça doit être un peu frustrant. Je comprends tes vieux.
Ouais,
tes
les vieux potos, américains. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est une autre expérience, puis c'est marrant, quoi. C'est...
Pour revenir à la petite Marie de 12 ans qui, oui. qui consommait des séries, etc. Oui. Mais excellente digression. Merci pour ça. À quel moment, en fait, tu commences à te dire, bon, bah, ok, d'un coup d'un seul, ça pourrait peut-être être un truc. C'est quoi l'étape d'après?
C'est vraiment beaucoup plus tard. Alors là, pour le coup, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait 4 ans d'école de commerce, pendant laquelle on doit faire des stages en entreprise.
Mais à cette époque-là, tu fais prépa HEC, école de commerce,
ouais.
et tu te dis que ça peut être un truc ?
Non, pas du tout. À ce moment-là, j'y pense pas. En fait, je me retrouve en école de commerce parce que moi, j'ai fait un bac philo. À l'époque, ça s'appelait L.
L.
Je sais que ça vient de changer, mais donc un bac littéraire, mais option maths parce que j'adorais les maths aussi. Mais bref, et en gros, je ne savais pas. À chaque fois qu'on me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne savais pas. Et j'ai ma prof de philo en terminale. J'avais décidé de faire une fac d'histoire et de langue vivante parce que je trouvais ça super. Et c'était un bidug qui n'existait pas.
En fait. Okay.
On m'a dit non, c'est soit éco-langue, soit je sais plus quoi. Bon, bref. Et ma prof de philo me dit non, mais bon, Marie, Socrate a dit les habitudes sont une seconde nature. Votre vraie habitude, c'est d'être une glandeuse. Et à la fac, vous allez glander et vous allez trouver ça formidable de passer l'année supérieure avec 10 de moyenne, alors que vous êtes une excellente élève et c'est juste du gâchis. Donc maintenant, il faut que vous fassiez une prépa. Et là, au moins, on vous lâchera pas. On vous foutra des coups de pied au cul tout le temps. Vous serez obligé de bosser. Mais bon, au moins, vous ferez mieux que une fac où vous aurez toujours juste 10 parce que vous êtes toujours contente de juste ce qui suffit, quoi.
Et tu t'es dit OK.
Oui, ben je me suis dit c'est ma prof de philo déjà, donc respect. J'adorais cette prof et tout ça.
Beaucoup, okay.
Bon après je savais que c'était vrai. Enfin je veux dire je savais qu'en effet je me contenterais toujours de 10 si 10 suffisent et voilà. Et donc
T'es plus comme ça aujourd'hui?
Je me contente toujours de ce qui suffit. C'est juste que je pense que j'ai des... Enfin, avant de considérer que ça suffit, je pense que mes ambitions ont augmenté, quoi. Mais disons que scolairement, je trouvais que si un 10 suffisait, ça valait pas forcément le coup de faire beaucoup d'efforts. Après, moi, comme j'étais une bonne élève, en fait, sans fin. C'est très... Voilà, comment dire, j'avais ce qu'on appelle des facilités. Oui. Donc, sans faire beaucoup d'efforts, j'avais des très, très bonnes notes. Mais... On m'expliquait toujours que j'aurais pu peut-être avoir encore de meilleures notes, mais il aurait fallu pour ça faire des efforts. Et j'étais là, vraiment, je ne vois pas l'intérêt. En fait, je préfère
regarder des séries.
Je préfère mes très bonnes notes en regardant des séries que des excellentes notes et devoir sacrifier des séries pour faire un bond du très bon à l'excellence. Enfin, ce gap-là m'intéressait pas tellement. Donc voilà. En revanche, après, sur d'autres choses, oui, je vise beaucoup plus et tout ça. Mais donc comme je ne savais pas quoi faire, je choisis la prépa la plus générale. On me dit fais une prépa éco. Et puis là, j'apprends qu'en école de commerce, il y avait une obligation de valider une expérience à l'étranger. Ça me branchait. Ça, c'était le truc qui m'a séduit, de me dire waouh, on est obligé de valider 6 mois à l'étranger, c'est génial. Et donc, je me suis retrouvée, voilà, j'ai fait donc 2 ans de prépa éco, dans le public cette fois, et je me suis retrouvée à l'ESSEC, une école de commerce. Et donc, il fallait choisir des stages, et j'étais bien embêtée pour choisir des stages, car je n'avais toujours pas du tout progressé dans mon questionnement de qu'est-ce que je veux faire plus tard, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je fasse un stage chez Série Club, puisque quand même mon truc c'est les séries. Et donc
la chaîne qui n'existe plus maintenant,
non,
j'imagine.
Je crois pas. Non.
Sur le câble.
Oui.
Et le satellite.
Exactement. C'était une chaîne sur le câble qui diffusait plein de séries que j'adorais. Et donc je me retrouve à demander un stage chez Série Club et finalement, alors. Dans l'école de commerce, il y avait un système qui s'appelait l'apprentissage qui permettait de se faire financer des études par l'entreprise en fait qui allait nous prendre comme stagiaires. Mais du coup, c'était pas un stage lambda, ça s'appelait un apprentissage. C'était un système un petit peu différent. qui était très familier des grosses entreprises, mais pas du tout des toutes petites. Et là, chez Série Club, ils étaient là, écoutez, on veut bien vous prendre comme stagiaire et tout ça, mais apprentissage, là, on n'y comprend rien à votre système. Et moi, j'avais vraiment ce truc en tête de non, je veux rembourser ma scolarité et tout ça. Et donc, j'ai pas pu faire mon stage chez Série Club. Mais l'idée est restée quand même de c'est quand même ça que je voudrais faire. Et donc après la question c'était quoi dans les séries, parce que finalement chez Série Club de toute façon ils m'auraient prise comme stagiaire, juste regarde ce qui se passe, mais ils produisaient pas, c'était pas une chaîne qui produisait des séries. Et donc finalement j'ai fini mes études et puis là j'ai vraiment réfléchi à ce qui m'intéressait dans la série, et je me suis dit, mais c'est quand même assez évident que c'est écrire les histoires, c'est ça qui me plaît.
Tu continues à écrire depuis tes...
Il y a eu une grande période où j'ai moins écrit, je pense que c'était le lycée, je pense, et après, un petit peu, à l'ESSEC et tout ça, et un petit peu. Mais voilà, du coup des formats un peu bizarres, je savais pas trop ce que j'écrivais, des nouvelles, et puis j'ai entendu parler du CEA qui est le Conservatoire d'écriture audiovisuelle, et donc après l'ESSEC en fait j'ai fait un stage dans une boîte de production,
ok,
chez Scarlett Productions, qui venait notamment de faire Clara Scheller, qui était une super série sur France 2.
Sur France 2, c'est ça.
Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé à être stagiaire à la lecture des scénarios.
Ah ouais, ok.
Et pas du tout stagiaire d'assistante prod. Et j'ai dit, non mais oubliez mon diplôme d'école de commerce et tout ça, on s'en fiche, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'écriture. Donc j'ai été stagiaire lectrice et je lisais les scénarios qui arrivaient, donc ce qui m'a permis de me familiariser avec ce que c'était qu'un scénario, c'est quoi le format, comment on écrit les dialogues, comment ça, bon, tout.
Les aspects plus techniques.
Exactement. Et puis c'est pendant ce stage que j'ai découvert l'existence de cette école, donc le Conservatoire d'écriture audiovisuelle. Et il y a un concours, c'est une formation de scénariste vraiment sur 2 ans, une top formation. Et j'ai présenté le concours et je me suis fait bouler dès la première étape, c'est la grosse déception. Alors que j'étais une bête de concours, quoi. J'avais toujours été première de classe toute ma vie. Ah, et ouais. Là, je passe le concours qui m'intéresse finalement, alors que tous les autres, je m'en fous. Enfin, je m'en foutais, je voulais les réussir, ouais. Évidemment, mais je veux dire, c'était jamais des choix
c'était
de
pas ta vocation,
de, voilà.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, c'était le truc qui m'intéressait et je me fais éclater, refouler à la première.
T'as quel âge à l'époque? Dur, hein, non?
J'ai 23, 24, un truc comme ça.
Premier échec scolaire.
24. Je pense. J'ai 24 ans, ouais.
Premier échec scolaire, ouais.
Après 6 ans d'études, quand même, après le bac, en plus.
Chaud ou pas?
Mais oui, parce que j'étais désemparée. J'étais là, ah bon, mais enfin, et alors comment je vais faire pour y arriver? Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toujours au Conservatoire d'écriture audiovisuelle, il y avait d'autres formations, mais qui étaient des formations continues, beaucoup plus courtes. C'était 3 mois. Et il y avait une formation qui s'appelait Écrire le 52 minutes. Le 52 minutes, c'est le format série, une heure, c'est 45 minutes, ouais. Aux États-Unis, c'est ce format-là.
Je croyais que 52 minutes, c'était le format des documentaires.
52 minutes ?
Ouais, je sais pas.
Non, c'était le format. En fait, c'est vraiment le format d'une grille de télé française.
Oui, okay.
C'est une grille d'une heure et il y a 8 minutes de pub et 52 minutes de, okay, vraie diffusion de fiction.
D'accord. Tu vois, dans ma tête, 52 minutes, c'était un docu.
Ah non, non. Non, non, c'est fiction ou docu ou tout ça. En fait, oui, c'est okay, juste en fonction de la grille horaire. Ouais. Et aux États-Unis, pour une heure de grille, il y a 18 minutes de pub. Donc, eux, leurs séries font 42 minutes quand on regarde. Voilà.
Okay.
Mais c'est le format qu'on appelle en anglais le one-hour drama. C'est le drama d'une heure. Quoi.
Okay.
Cette formation 52 minutes, c'est la deuxième année qu'elle existe à ce moment-là. Et elle est née, c'est premier inscrit, premier prix. Et donc, en gros, je m'étais fait, j'avais raté le concours, mais là, il suffisait de m'inscrire et d'être dans les premières. Donc, je me suis inscrite. Et j'ai fait cette formation et qui était super, qui était vraiment vraiment très bien faite et qui est maintenant devenue d'ailleurs sélective tellement le nombre de demandes a explosé juste après en fait, enfin ces années là. Et donc on devait développer un projet de série pendant cette formation et à la fin, pendant deux jours, on rencontrait des producteurs qui venaient un petit peu faire leur marché ou qui venaient regarder les peut-être nouveaux talents, nouveaux scénaristes qui arrivaient sur le marché. Et voilà, et le projet que j'avais écrit avait intéressé plusieurs producteurs. Donc pour ça, il m'avait fallu un agent. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon agente et qui m'a aidée à choisir en fait le producteur avec qui j'allais signer ce qu'on appelle une option. C'est la toute première étape des contrats. Et voilà. Et ensuite, donc j'ai eu une agente qui m'a ensuite fait positionner sur plusieurs projets. Et puis mon projet, celui que j'avais écrit au CEA, n'a jamais abouti. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'est jamais vendu auprès d'un diffuseur. Mais j'ai travaillé sur d'autres projets. Et puis voilà.
Parce que pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ton métier qui est quand même très particulier, hein, c'est que... Non mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de métiers qui existent comme ça, c'est-à-dire que tu peux travailler pendant parfois plusieurs mois, plusieurs années sur un scénario, enfin sur un projet de série qui va finir par ne peut-être jamais voir le jour en fait.
Oui, alors on travaille rarement plusieurs années sur un projet qui voit jamais le jour, c'est-à-dire que c'est possible, mais on travaille pas seul pendant plusieurs années. La première étape, dès qu'on a quelque chose, quand je dis quelque chose, c'est pas une idée, parce que les idées, tout le monde en a. En fait, c'est vraiment la formalisation d'une idée sur le papier avec un point de vue d'auteur, donc une idée de série mais construite avec des vrais personnages, et donc une fois qu'on a ça, on peut aller voir des producteurs pour leur présenter notre projet. Et si des producteurs sont intéressés, ils nous signent ce qu'on appelle une option. C'est-à-dire que nous, en échange d'argent, on leur...
C'est mieux.
On peut retravailler ce qui nécessite d'être retravaillé en vue de le présenter à un diffuseur. Et on autorise, l'option c'est un peu ça, c'est qu'on autorise le producteur à présenter le projet à un diffuseur, et puis si jamais le projet se revend pas, on reprend nos droits dessus. C'est-à-dire qu'on peut, quelques temps plus tard, le proposer à quelqu'un d'autre, ou à un autre producteur, ou... voilà.
Ok.
Voilà.
Quand tu sors de cette formation, donc ça y est, t'es scénariste. Dans ta tête.
Oui.
T'es légitime.
Oui.
Oui.
Mais je pense qu'en fait, on est scénariste quand on écrit des scénarios.
Oui.
Donc, j'ai beaucoup de problèmes avec les gens qui me disent être scénariste sans jamais avoir écrit de scénario. Autant, je n'ai aucun problème avec des gens qui écrivent des scénarios et qui n'en ont peut-être pas encore vendu. Mais ça dure un temps. Après, si pendant 20 ans, ils écrivent des scénarios qui ne se vendent jamais, c'est...
Faut se poser peut-être des questions.
Voilà.
comment ça se passe ensuite? Comment tu trouves ton premier...
Mon premier job.
Job de scénariste.
Je ne me souviens plus. C'était il y a longtemps maintenant. Mais c'était comme ça. C'est mon agente qui m'a mise sur des projets. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, la fiction française s'ouvrait aux 52 minutes. Alors qu'avant, le format un peu tradit, c'était le 90 minutes, qui était le format téléfilm. Et même les séries de l'époque avaient des épisodes qui duraient en fait une heure et demie, quoi, qui étaient du 90 minutes.
Qui n'est pas du tout le même format, tu t'écris pas du tout de la même façon.
Pas du tout. Et d'ailleurs, je n'ai jamais écrit de 90 minutes. Et donc, à l'époque, on est en train de changer parce qu'on voit toutes les séries américaines, leur succès, leur efficacité dans ce format qui est chez eux, donc du 42, mais... En France, on appelle toujours ça le 52. Et donc comme ça. Et puis j'avais une vraie connaissance des séries, en fait. Une grande connaissance des séries. Et puis surtout, bon, il y avait eu le CEA, mais j'avais beaucoup travaillé toute seule avant pour décortiquer des épisodes de séries. Parce qu'en fait, quand on veut écrire des séries, il suffit pas de regarder des séries et de dire j'aime pas et qu'est-ce que j'aime pas. C'est le tout premier travail qu'on peut faire vraiment seul, hein, et que j'avais commencé seul, c'était de décortiquer plein d'épisodes, y compris de séries que j'aimais pas, mais pour voir aussi les différences, en fait.
Et puis, là, bon, y a un truc que j'ai découvert aussi, c'est que la façon de raconter les histoires est très, est très codifiée aussi.
Oui, mais l'écriture télé, c'est une écriture sous contrainte. Il y a une contrainte de temps. Déjà, par exemple, si on écrit un long métrage, il peut faire 1h30, il peut faire 1h50, il peut faire peut-être 1h15. Quand on écrit pour une télé, c'est une grille horaire 1h avec 8 minutes de pub, on peut pas dépasser le 52 minutes, quoi. On pourra pas faire du 58 minutes. Donc, ça veut dire un nombre de séquences ou une durée de séquences. Donc, l'écriture de télé, c'est vraiment une écriture sous contrainte. Ouais.
Ok. Il y a un moment donné où aussi dans ta carrière, donc tu commences à avoir une carrière en France de scénariste de plus en plus, et tu pars aux US pour faire une formation.
Ouais.
Il y a quelques années ça.
C'était en 2010. Okay. Je suis partie en 2010.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là-bas?
Bon, alors déjà. Donc comme j'adore l'école, j'ai toujours adoré l'école. Okay. En fait, ça n'a jamais arrêté.
C'est-à-dire
qu'au CEA, j'adorais cette formation de 3 mois. Après, en fait, j'en fais plein des formations, j'adore ça.
Okay.
Et là, ce qui a joué, c'est que c'est une formation dont j'avais entendu parler. Moi, j'avais quand même beaucoup regardé des séries américaines, hein, principalement quand j'étais ado. C'est celle que je connaissais le mieux. Ça reste quand même un modèle. Je veux dire, il y a d'autres pays, évidemment, qui font des séries absolument géniales. Mais les États-Unis restent un modèle puisqu'ils ont une production absolument énorme aussi en volume.
Forcément, statistiquement.
Voilà, exactement. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant quand même de parfaire ma formation en allant là-bas. Et il se trouve que c'est pile un moment où en France, je travaillais sur plusieurs projets et ça c'est un petit peu le hasard, mais ils se sont tous finis parce que la saison sur laquelle je travaillais se finissait et tout ça. L'écriture se finissait au même moment. Et donc j'ai eu un moment où pour la première fois depuis que j'avais commencé à travailler, j'avais pas de nouveaux projets et je me suis dit non mais quitte à ne pas travailler, autant apprendre. Et donc j'ai commencé à remplir des dossiers pour partir là-bas. C'était de la formation continue, donc là pour le coup à nouveau on n'est plus dans un c'est l'université américaine, mais c'est pas l'université américaine ultra sélective, ça reste une formation professionnelle. Et donc, je commence à remplir les dossiers, à passer tout ce qu'il faut passer, les examens, les trucs, les équivalents d'anglais pour être sûr que j'ai le niveau d'anglais et tout ça. Et puis, évidemment, le boulot arrive. Hop, comme souvent dans la vie, tout arrive en même temps. Donc, le boulot arrive en grande vague et je me dis, bon, bah, c'est même pas la peine, je pourrais jamais repartir aux États-Unis. Et puis, j'ai un copain, producteur, que j'avais rencontré en commençant à travailler, qui me dit, mais au contraire, Marie, tu peux continuer d'écrire sur tes projets des États-Unis.
Depuis là-bas, ouais.
Donc, fonce, tu t'inscris, tu fais ta formation et tu pars en plus dans un moment où tout roule pour toi en France et pas un moment de creux de vague où ça va être très difficile ensuite de revenir et de dire, oh là là, parce que... Bon.
Ouais, c'est hyper intéressant comme move.
Et donc, en fait, finalement, j'avais plein de boulot au moment où je suis partie, donc j'étais un petit peu en panique, donc je préviens mes producteurs, vous inquiétez pas, je pourrais continuer de travailler de là-bas, c'est juste que je serai là-bas, mais aujourd'hui, vous savez, avec Internet, tout est possible, on peut se faire des réunions sur Skype, c'était pas Zoom à l'époque, ouais. C'était Skype, mais c'est un peu le même principe. Et donc je suis partie là-bas et je suis revenue en 2012. Je suis restée presque 2 ans. Un an et demi, en fait. Non, un an et demi. Ouais.
Après ta formation, donc t'es resté là-bas ou
Non, pas du tout. En fait, j'ai fait le temps de ma formation. Okay. Oui, c'est ça. Il y a eu 15 mois de formation, en fait. J'ai fait 15 mois de formation et pendant lesquels je continuais de travailler sur des projets français. Et notamment un projet sur lequel j'ai rencontré Frédéric Krivine, qui est l'auteur d'Un village français. Et donc, quand je suis rentrée en France, il m'a dit, quand une place se libère dans l'équipe, je voudrais que tu intègres la série. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, aux États-Unis, j'ai adoré parce que déjà, j'avais un petit peu l'impression de vivre quand même le fantasme. Moi,
le rêve américain, the American dream.
En fait, c'était plus le truc de... J'avais tellement vu de séries avec des universités, les grandes pelouses vertes et tout ça. Et là, j'étais là, waouh, c'est moi qui suis dans l'université américaine avec la grande pelouse verte. Et donc ça, c'était une petite satisfaction. Enfin non, en fait, une grande satisfaction, mais pas du tout lié au contenu. Mais après, le contenu des formations que j'ai faites là-bas, que j'ai fait là-bas, était vraiment super intéressant. Et j'ai suivi à la fois des cours de scénario et des cours de production, suivant toujours le même conseil de cet ami producteur qui me disait tu as déjà une formation maintenant en scénar et ça fait déjà plusieurs années que t'es installé, on commence à t'identifier comme scénariste en France. Complète ta formation avec d'autres apprentissages que le scénar. Prends autant de cours de scénar que tu veux, parce que évidemment c'est ton truc et c'est ton pied, mais prends autre chose aussi. Et donc j'ai fait une double formation scénar et production, où là, j'ai découvert d'autres aspects de la production, ce qu'on appelle la prépa, la post-production, l'étalonnage, le mixage. Alors, c'était pas des cours d'étalonnage, hein, je veux dire, moi,
Non, c'est plutôt d'expliquer le process, quoi.
Exactement.
Et ça t'a servi en tant qu'autrice ?
Et ça m'a beaucoup servi, parce que ça donne une vision globale du process, justement, de fabrication d'un projet audiovisuel ou ciné. Et donc, enfin, du recul, une perspective. Enfin, non, c'était très intéressant. Et puis, on commençait déjà à parler quand même de showrunner en France. Et voilà, je fais une transition.
Écoute, non, mais en fait, j'avais envie de te demander aussi ce que ça t'avait apporté, toi, par rapport à ton métier. Est-ce que ça t'avait apporté une autre perspective aussi de ton côté? Peut-être que justement cette histoire dans l'organisation, tu vois.
Alors, ça a été vraiment un apprentissage très très riche quand même, ces 15 mois de formation, presque 18 mois passés là-bas. Une des choses que j'ai retenues, qui m'a frappée, c'est que là-bas, vraiment, enfin, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on veut être scénariste, on écrit des scénarios. C'est que en France, on était encore beaucoup dans on écrit des scénarios, mais c'est étape par étape, donc on écrit des synopsis, et puis des synopsis, parfois ça peut être très littéraire, donc quelqu'un qui a une belle plume et qui écrirait sans doute un très beau roman peut écrire un très beau synopsis, mais en fait au moment de dialoguer, c'est un autre délire. Et finalement, il y avait quand même beaucoup de projets où on passait énormément de temps sur des synopsis, hein, et plein d'auteurs qui parfois même arrivaient à en vivre en écrivant très peu de scénarios dialogués. Et alors aux États-Unis, pour le coup, ça n'existe même pas. Enfin, je veux dire, tu veux écrire un scénario, tu écris un scénario. Tu passes pas 10 ans sur des synopsis. Et donc, ce qui m'avait frappé, c'était aussi à quel point là-bas c'était compétitif. C'était très 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 difficile parce qu'il y avait des gens vraiment ultra doués, hein, en cours avec moi, et qui sont pas scénaristes et qui ont lâché l'affaire là-bas parce que c'est trop compétitif. Mais c'était des gros bosseurs. Donc, évidemment, il faut écrire, vraiment bosser, quoi.
Ouais. Tu me disais aussi tout à l'heure que... Enfin, j'ai un peu la sensation que en France, le scénariste est toujours un peu mis un peu en arrière, en fait, notamment par rapport aux réalisateurs, là où aux US, j'ai l'impression qu'ils mettent en avant justement les storytellers, parce que c'est aussi un pays de storytelling, d'ailleurs, si ça se dit storytelling, c'est pas par hasard. Là où en France, c'est un peu plus... Bah c'est plus le réel, alors qu'en fait, le réel, finalement... qu'il fait pas grand chose, mais juste
Ah non, il fait vraiment pas grand chose. Il fait beaucoup, le réel. Non, c'est ultra important, évidemment. C'est juste que, en fait, je raconte toujours la même histoire pour expliquer un peu la différence entre la façon de penser américaine pour les séries et en France. C'est que aux États-Unis, les séries télé découlent du feuilleton radio. Et à la radio, à l'époque, il y avait quelqu'un qui créait des personnages et qui écrivait des histoires avec ces personnages. Et ensuite, il y avait des comédiens qui lisaient les dialogues et ça donnait les feuilletons radio. Ça a cartonné. Quand la télé est arrivée, ils se sont dit, mais waouh, Et si, plutôt que de se limiter à une voix suave, machin, on avait en plus le bénéfice de voir une belle gueule à la télé avec la mâchoire américaine et tout ça, ce serait génial. Et donc là, tac, les comédiens sont passés à l'image. Et donc, il a fallu évidemment des réalisateurs, mais c'était assez simple. C'était vraiment une de la radio mise en image. Ouais. C'était une translation. Celui qui est resté le chef d'orchestre de tout le projet, c'est toujours celui qui écrivait les histoires. C'était juste que ces histoires, cette fois, étaient filmées. Et donc, c'est resté le scénariste, le chef d'orchestre de tout ça. Et les séries ont progressé, évolué, elles ont grandi, elles se sont développées et elles sont, avec les années et même les décennies, elles sont devenues de plus en plus belles esthétiquement parlant et de plus en plus cinématographiques. Donc, ils ont de plus en plus fait appel à des réalisateurs à qui, justement, on demandait d'avoir, d'être créatifs, d'avoir un point de vue d'auteur et tout ça. Mais tout ça en discussion avec le chef d'orchestre qui est toujours resté le même, à savoir le scénariste. Donc pareil, comme les séries aussi, dans leur narration, il y avait beaucoup d'épisodes, le chef d'orchestre s'entourait d'équipes de scénaristes, et puis il y avait beaucoup de réalisateurs parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes, et puis c'est lui qui, vraiment, quand je dis chef d'orchestre, c'est assurer la cohérence du tout, donc de l'image, du son, de la direction artistique, en fait. Et voilà, et c'est toujours le cas aujourd'hui, même sur des séries où on fait venir des réalisateurs absolument stars pour un épisode, finalement, celui qui s'appelle le showrunner, c'est cette personne qui garantit cette union, enfin cette unicité de la vision, en fait, cette cohérence de la vision artistique du projet, et c'est toujours resté le scénariste. Et en France, à l'inverse, la télé, on l'a toujours vue comme la petite sœur du cinéma. Et au cinéma, et ça a du sens, le chef d'orchestre, c'est le réalisateur. Et donc, en télé, il y a eu, je pense, cette incompréhension de ce qu'est la télé en France. Et on a voulu faire venir le réalisateur comme chef d'orchestre. Ce qui a favorisé ça, ou en tout cas ce qui a rendu ça possible, alors que c'est beaucoup de mini-séries en France. C'est-à-dire, ouais. On appelle des séries, en fait, des mini-séries de 6 épisodes. Qui peuvent être réalisés par la même personne et finalement, dans beaucoup de cas, c'est un grand film découpé en 6 morceaux. Et donc, là où on a pu faire venir en France à la télé le chef d'orchestre en donnant ce poste au réalisateur, c'était possible parce qu'il y avait 6 épisodes seulement. Si ça avait déjà été des séries de 12, voire n'en parlons même pas de 22 épisodes, on n'aurait même pas pu essayer, en fait. Donc, je pense que c'est une incompréhension qui a été rendue possible par l'existence de ces fausses séries. Enfin, pour moi, c'est ces espèces de longs films découpés en morceaux. Mais dès qu'on passe à ce que j'appelle des vraies séries, c'est-à-dire quand même quand il y a 6 épisodes, mais qu'il va y avoir plusieurs saisons, quand il y a 8 épisodes, ou évidemment 12 épisodes et tout ça, finalement, c'est là qu'on s'est dit, mais on va... Ça tiraille, quoi.
Et d'ailleurs, j'ai un peu... Enfin, j'ai en tête notamment Dexter, où ils ont changé, ils ont viré toute l'équipe d'auteurs au milieu de la série, et ils ont complètement changé, et la série perd complètement son âme en passant, quoi.
Ah, alors, eh bien, je n'ai pas regardé toutes les saisons de Dexter, et j'ai raté ça, mais oui, bien sûr. Enfin, il y a un gros risque quand on change de showrunner que... Ouais. Et d'équipe d'écriture, évidemment, que oui, ce soit plus tout à fait la même. Ouais. Alors, parfois, je sais pas, hein, en l'occurrence, peut-être que sur certaines séries, il est arrivé de dégager un showrunner et toute une équipe d'écriture pour le bien de la série, oui. Et que, au contraire, c'est mené à une amélioration. Enfin, j'imagine
mais
que.
Peut-être je me trompe, mais je crois qu'ils vont faire de ce fait-là une ultime saison de Dexter, ils font revenir.
Ah!
Mais avec l'équipe
d'origine.
Ah,
excellent.
Et que d'un coup d'un seul, la hype revient. Comme quoi.
Voilà.
Comme quoi ton métier.
Eh oui, non, bien sûr.
Speaking of ton métier. Donc aujourd'hui, t'es showrunner. Tu dis showrunner. Hein. On en parlait juste avant l'enregistrement. Tu dis pas showrunneuse.
Bah moi, comme c'est un mot anglais qui se termine par er, je dis showrunner et je dis je suis une showrunner. Enfin, je suis la showrunner en l'occurrence sur ma série.
C'est la première fois donc que
c'est la première fois
que t'es showrunner d'une série française. Et tu me disais que pour le coup, c'est assez rare de confier à des femmes. cette mission, quoi.
Mais c'est-à-dire que... Le concept même de ce poste de showrunner, donc de chef d'orchestre, on va dire, d'une série, se développe beaucoup maintenant, mais est relativement, enfin, n'existait pas quand même il y a quelques années.
C'est nouveau en France, quoi.
C'est nouveau. Enfin, en fait, ça existait, mais c'était vraiment extrêmement marginal. Et donc aujourd'hui, ça se développe. Et pour le coup, en France, la profession de scénariste est très, très paritaire. Il y a vraiment à peu près autant de femmes que d'hommes, ou plutôt même à peu près autant d'hommes que de femmes, parce que je crois que s'il y a une légère majorité, okay, c'est peut-être un poil plus de femmes. Et pour les showrunners, en fait, franchement, il y en a tellement peu quand même que ce serait difficile de tirer des stats de ça. Je pense qu'il commence à y avoir des femmes, mais c'est surtout il commence à y avoir des showrunners. En fait, c'est oui, déjà ça, c'est déjà le grand pas. Ouais.
Comment tu t'es retrouvé à la tête de ce projet justement ?
C'est vraiment mon expérience de scénariste qui j'ai travaillé sur beaucoup de projets très différents qui s'écrivaient différemment et tout ça, et les années passant j'ai observé et suivi de plus en plus la fabrication et pas seulement justement l'écriture et donc il y a un projet déjà je suis partie aux États-Unis quand je travaillais sur Borgia, qui était une série, oui, Canal+, qui a eu 3 saisons. Et je suis partie sur la 3e saison de Borgia. Alors, c'était une série européenne, une coproduction franco-européenne, en gros. Mais écrite par un Américain. Et donc, je suis partie 2 mois à New York travailler dans son équipe. Et là, ce que j'ai observé, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est un auteur américain, mais sur cette série-là, il n'écrivait pas en atelier d'écriture, ce qui est pourtant le mode d'écriture de série classique aux États-Unis.
Tu veux dire où on se retrouve tous ensemble ?
Exactement, c'est ça, pour écrire ? Avec ce qu'on appelle la writer's room, ou salle d'écriture, où tous les scénaristes se retrouvent, passent la journée ensemble à décider de tout ce qui va se passer dans tel épisode, ou dans la saison, ou tout ça. Et alors lui, il ne travaillait pas comme ça sur cette série-là, mais il était le showrunner de la série et c'est surtout ça que j'ai observé, c'est-à-dire que j'ai travaillé et j'ai écrit et c'était vraiment le but de ces 2 mois là-bas, c'était d'écrire et ensuite il m'a confié l'écriture vraiment, j'ai commencé à écrire des scènes en fait, d'épisodes, ouais, divers, et ensuite il m'a confié l'écriture d'un scénario entier de la saison 3. Et ensuite, je suis allée sur le tournage et là, vraiment, avec lui, l'observer être showrunner sur le tournage. C'est-à-dire comment il s'adressait aux réalisateurs. Il y en avait 2 sur place au moment où j'y étais. Comment il parlait aux comédiens, quel rapport il entretenait avec les chefs de poste, comment tout ça se gérait, en fait.
Parce que de ce fait-là, il butine un peu sur tout le projet.
Absolument. Ouais, il parle à tout le monde, en fait. Comment il parle évidemment aux producteurs, aux diffuseurs. C'était tout ça que j'observais.
Il n'est pas juste dans sa tour d'ivoire à écrire envoyer les scénars, quoi.
Et non, vraiment, être showrunner, c'est vraiment faire le lien entre ce qui a été écrit et ce qui va être tourné et ensuite monté et mixé et tout ça. C'est vraiment suivre le processus de fabrication jusqu'au bout. Et donc être impliqué à chaque étape du casting, au choix des décors, voilà, à la toute fin. J'ai observé ça, c'était vraiment comme une expérience d'observation. Sur un village français, je travaillais avec donc dans l'équipe d'auteurs où là j'étais simple auteur entre guillemets de Frédéric Krivin, qui est lui n'aime pas le mot de showrunner, il emploie pas ce terme pour se désigner sur un village français, mais il est auteur coproducteur de la série, donc c'est,
il dit coureur de série ou
il dit auteur producteur.
Okay.
Tout simplement, finalement. Mais c'est le chef d'écriture de la série. Et en tant que coproducteur, évidemment, il s'assure avec le producteur de la cohérence artistique de la série. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les showrunners, c'est ni tout seul dans sa tour d'ivoire, ni de façon dictatoriale imposer ses volontés. C'est toujours dans le dialogue avec les producteurs, évidemment. En fait, la grande prérogative d'un showrunner, de toute façon, c'est de faire des arbitrages entre l'artistique et le financier. Parce que finalement, c'est souvent ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un budget. On rêverait tous de pouvoir avoir un budget illimité. Mais en fait, c'est pas le cas. Et donc, parfois, il faut sacrifier tel aspect d'une scène pour garantir tel autre aspect dans une autre scène. C'est, voilà. Et donc, c'est des arbitrages dont il faut discuter. Parfois, ça nécessite des réécritures pour des adaptations de scène. Et donc, tout ça, ça concerne le showrunner. Mais évidemment, on échange en collaboration avec les producteurs. Et donc, moi, je suis devenue showrunner de ma série parce que, donc j'avais toutes ces expériences quand même, disons, d'observation. Oui. Et puis sur les bracelets rouges, c'était, il me semble, la première fois que j'étais directrice d'écriture seule sur une série. Donc là, j'avais géré une équipe d'auteurs, des ateliers d'écriture, voilà, une façon de travailler en équipe. Mais je ne suivais pas du tout le processus de fabrication de la série. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais rendu les textes, il y avait des retours avec le réalisateur qui me disait « Bon, bah là, on est dans tel décor, il faudrait ajuster tel ou tel dialogue et tout ça. » Mais après, je ne suivais pas du tout ni le tournage. J'y suis allée comme ça, mais je ne suivais
pas. Tu n'avais pas d'impact dessus, en tout cas.
Voilà, exactement. Et mais quand même, forte de toutes ces expériences, puis j'ai compléter justement mes formations pour me sentir un peu à ma place quand j'allais être showrunner. J'ai fait une formation réalisation, non pas pour apprendre les spécificités techniques de des focales, oui. C'était pas le but, mais c'était pour comprendre vraiment mieux un tournage, bien que j'avais déjà des expériences où j'étais allée sur le tournage, mais pour vraiment avoir les mains dedans, comprendre vraiment...
Te former vraiment, parce que tu disais que t'adorais apprendre.
Me former, mais oui, non, mais c'est ça en fait, me former, ce que c'est que chacun des postes... voilà, l'idée c'était de faire cette formation pour me dire, ok, je comprends avec qui je vais devoir échanger pendant toute la prépa, pour faire toute la direction artistique d'un projet... Qui sont les gens avec qui je dois discuter, de quoi je dois discuter, quel est le rôle de chacun sur un plateau, avant le plateau, après le plateau, enfin, c'est tout ça. Et donc, j'ai fait une formation réalisation, ensuite j'ai fait une formation montage, pareil, pas pour devenir monteuse moi-même, mais pour comprendre la philosophie du montage et tout ça.
Pour pouvoir parler aussi avec les...
Et parler évidemment avec les monteurs et tout ça. Et voilà, et ensuite, j'avais ce projet, donc mixte, qui était une idée à moi. Et donc,
qui est une idée à toi? Elle te vient d'où, cette idée? à part de ton enfance, peut-être.
Alors oui, alors en fait, ce qui est drôle, c'est que l'idée, vraiment, elle est venue de la lecture d'un tout petit article où qui parlait d'un lycée qui avait la grande fierté d'avoir été le premier lycée de tout son département à devenir mixte au début des années 60. Et à accueillir des filles. Et sur le coup, je me dis, mais c'est génial cette histoire, je connais pas en fait les débuts de la mixité, c'est vrai, comment c'est arrivé, parce que j'y avais jamais pensé. Et donc je commence à faire plein de recherches, je suis surprise, je trouve ça génial, je trouve que le sujet est passionnant. En plus, j'étais surprise de tout ce que je découvrais, c'est-à-dire que là où j'imaginais que et garçons et filles allaient se réjouir de pouvoir être ensemble, et ben en fait pas du tout, enfin ou en tout cas vraiment pas si simplement et pas pour tout le monde. Tout ça, je me suis dit non mais il y a un matériel génial, il faut faire une série là-dessus. Et puis c'est en cherchant des idées que là je me dis mais en fait bien sûr ça j'ai flashé sur le sujet sans doute pas par hasard quand tout d'un coup j'ai réalisé que moi-même j'avais été scolarisée dans une école de garçons.
Oh, c'est génial quand même.
Ouais, non. C'était très drôle parce que c'est vraiment je crois le lendemain ou le surlendemain que j'ai réalisé ça, quoi. Ça a vraiment pas été immédiat. En fait, j'ai passé 2 jours à m'exciter en pensant au personnage, en me disant, mais oh, il faudrait un personnage comme ci, comme ça. Et puis, c'est vraiment quand je pensais à toutes les situations concrètes que cette mixité improvisée allait pouvoir générer que je me suis dit, mais en fait, j'ai qu'à chercher dans mes souvenirs. Voilà, c'est marrant.
C'est génial. Et donc, comment s'est passé le tournage en tant que showrunner?
Alors là, déjà nous, on a eu tournage 2020, hein, donc le tournage en fait aurait dû commencer le 18 mars et on a été confinés le 17. Ouais. Ouais, donc ça, moi je me souviendrai, wow. Je pense très très longtemps dans ma vie de cette journée du vendredi 13 mars où on venait de finir notre réunion avec tous les chefs de poste. Donc on avait une table immense, il y avait les quatre producteurs, la réalisatrice, puisqu'à l'époque ça devait être une réalisatrice, tous les chefs de poste et moi, et on avait passé en revue tout le plan de travail du découpage des quatre premiers épisodes.
Oh là là.
Que devait tourner cette réalisatrice et je me revois me tourner vers Emmanuel Yushnovsky qui est la chef costume pour lui dire bon bah là quand même on entend beaucoup parler de ce Covid mais après cette réunion qu'on vient de faire au moins on peut se rassurer, on est sûr qu'on va tourner maintenant. Et voilà, une demi-heure après on apprenait que le tournage n'allait pas pouvoir être possible et donc le vendredi 13, tout s'est écroulé et vraiment j'ai ce souvenir de regarder par la fenêtre, de voir les camions, on était à Paris et les camions remplis de tous les costumes de tous les personnages de la série partaient dans des immenses camions pour Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime où on allait tourner. Et les camions étaient déjà partis, en fait. Et on les regardait partir. Et puis, on disait, de toute façon, on ne va pas pouvoir changer d'avis maintenant parce que les bureaux qu'on occupait à Paris à ce moment-là pour la prépa, ben, de toute façon... Ils fermaient, puisque deux jours après, on devait tous être à Saint-Jean-d'Angély pour les deux jours qui précédaient le début du tournage. Donc bref, ça a été vraiment un gros coup dur. Et puis, il s'est passé plein de choses. Hein. Il s'est passé le premier confinement et tout ça. Et puis on a fini par tourner en août. On a commencé en août 2020 le tournage. Entre-temps, la réalisatrice qui était québécoise a eu d'autres impératifs, n'a pas pu revenir du Québec, donc on a changé.
Parce que vous aviez prévu de tout tourner avec une seule réale, c'est ça?
Non, pas du tout. Okay, elle devait tourner les quatre premiers épisodes et un autre réalisateur devait tourner les quatre suivants. Et puis, finalement, c'est Alexandre Castagnetti qui a eu l'audace, le courage, l'envie et de relever le défi, franchement, à un mois du tournage pour reprendre haut la main. Voilà, et donc on a commencé au mois d'août et on a fini en décembre. Donc ça a été un long tournage, mais il y a 8 épisodes, voilà.
Waouh. Et donc, c'est diffusé depuis quelques semaines,
et
hein,
c'est ça?
C'est
diffusé depuis une semaine et demie, depuis le 14 juin, donc ça doit faire 10 jours. Ouais, c'est ça.
On diffusera cet épisode la semaine prochaine, donc...
Donc, c'est diffusé depuis le 14 juin.
C'est diffusé depuis le 14 juin. Et comme tu me disais, en fait, vous avez 28 jours. Alors, je ne sais pas si c'est un truc qui est officiel ou pas, que tu as le droit de dire ou pas, mais on verra.
Je pense que oui, en fait...
Tu ne sais pas si ça va être renouvelé, en fait, en gros.
Voilà, on ne sait pas si on aura une saison 2. En fait, ce qui est très contre-intuitif, je dirais, du point de vue du public, c'est qu'à partir du moment où une série existe sur une plateforme, on se dit qu'on peut la regarder quand on veut. Et c'est vrai qu'en théorie mixte, si quelqu'un a envie de la regarder au mois d'août parce qu'il va être tranquille en vacances, il se dit « génial, j'attends le mois d'août », malheureusement, pour savoir s'il y a une saison 2 ou pas, nous, c'est le premier mois de mise en ligne qui est déterminant. Et donc voilà, on espère, c'est une série, le tournage a été extrêmement sympathique parce que quand même avec des comédiens...
Ils sont super, les comédiens,
ils sont jeunes, ils balancent une énergie merveilleuse. Les comédiens adultes sont
tout aussi
formidables.
Ouais, c'est clair.
Ils sont vraiment...
Ils sont tous très bien dans leur rôle.
On a un casting vraiment, vraiment top niveau. Et c'est vrai qu'en termes d'énergie... Travailler avec cette bande qui s'est hyper bien entendue, qui a vécu, par ailleurs, parce que c'est quand même à remarquer, la même disproportion qu'on voit dans la série. C'est-à-dire que la série raconte l'arrivée de quelques filles dans un univers entièrement masculin. Ah ouais. Et finalement, mais forcément, sur le tournage, c'était la même chose. C'est-à-dire que sur les 15 vraiment qui étaient donc 15 personnages très identifiés, donc qui étaient il y a 3 filles et 12 garçons.
Ouais, c'est vrai, c'est marrant.
Et donc c'est quand même une joyeuse bande, voilà. Ouais,
t'as comme je le disais un peu au départ, t'as vraiment fait en sorte de creuser des persos qui sont pas dans leur cliché qu'on pourrait attendre, en fait. Je trouvais ça vraiment hyper rafraîchissant.
Ah bah tant mieux, merci. Bah il faut jouer, je pense, sur les archétypes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on attend, parce qu'on les retrouvera partout, tout le temps, à chaque époque. Hein. Je veux dire, il y a toujours un relou dans une classe. Il y a toujours un mec qui est plus en difficulté ou une nana plus en difficulté. Il y a des archétypes comme ça. Mais après, Je pense qu'il faut les travailler, les affiner, les, pour que ça ne reste pas juste un archétype et que ça devienne vraiment un personnage. Et c'est vrai que moi, je trouve ça génial de lire les retours qu'on a aujourd'hui parce qu'on voit que les gens accrochent avec tel ou tel personnage. C'est super varié d'ailleurs. Et ça, moi, je trouve ça très, très important.
C'est trop bien parce que c'est vrai que j'ai l'impression de voir un peu une série américaine, tu vois. Dans la nuance du perso, dans le naturel des dialogues, où il y a souvent, tu sais, des caricatures autour des séries dialoguées en France qui étaient un peu surjouées ou qui avaient des, comment dire, qui les personnages disent des trucs qu'on dirait pas dans la vraie vie.
Ouais, je vois le genre. Ouais.
Et là, pour le coup,
j'ai une super équipe d'auteurs. Hein, il y a trois scénaristes qui ont collaboré avec moi, enfin quatre en réalité, puisqu'il y en a qui se sont relayés, qui ont collaboré avec moi vraiment en atelier d'écriture. Donc, dans cette fameuse salle, on se faisait énormément de réunions pour écrire à partir de l'épisode 3 ensemble et même sur une ligne, les épisodes, les construire, les trajectoires des personnages et tout ça. Et en plus d'eux, se sont ajoutés deux scénaristes qui, eux, n'ont écrit que des dialogues.
Ok.
Voilà, on a travaillé comme ça, mais c'était une équipe top qualité.
Gros taf d'équipe, quoi.
Absolument.
Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé parler?
Ah, je sais pas, sans doute, mais... ah là là. Le problème, c'est quand on me demande ça, je sais pas.
Pas de problème. Sinon, j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi tes deux, trois reco-séries, là, du moment?
Ah!
Tu regardes toujours? T'as toujours le temps de regarder?
Écoute, j'en ai moins regardé ces derniers mois. Ouais. Pour être honnête, j'en ai moins regardé ces derniers mois. Donc, je suis en retard sur plein de choses. Donc, je vais peut-être sortir des recos qui sont...
Des trucs que t'aurais bien aimé en termes d'écriture, par exemple.
Je sais que j'ai regardé les Ch'tizel. Qui m'a beaucoup plu.
C'est sur Netflix, hein, c'est ça?
Ouais.
Ouais. C'est quoi? C'est l'histoire d'une famille juive.
C'est une famille juive orthodoxe, ouais. À Jérusalem.
C'est quoi tes séries cultes, vraiment, qui t'ont marqué aujourd'hui? Quand quand je te dis, à quel point ça t'a forgé, toi, dans la scénariste que t'es aujourd'hui?
Alors là, c'est pareil, c'est un peu, un mélange entre mes séries préférées et celles qui vraiment m'ont marqué, tout ça. Je sais pas trop, mais comme ça en vrac, bon, je dirais Buffy contre les vampires, forcément.
Ah ouais, ok.
Ouais. Une autre série ado que j'avais vraiment trouvé de grande qualité, c'était Friday Night Lights.
Ah oui.
Qui pour moi est un petit bijou.
Avec le coach.
Oui, avec le coach Taylor.
Coach absolument. Taylor.
Grey's Anatomy. Moi, je trouve que c'est que des séries très grand public, mais moi, j'aime en fait des séries qui peuvent être regardées par des générations différentes et tout ça. Et puis, ça va un peu dans tous les sens, mais
vas-y.
J'adore Épisode, ça me fait pleurer de rire.
Je connais pas.
Oh
ah, attends,
quelle chance. Avec Matt LeBlanc, qui joue Joey dans Friends, mais joue son propre rôle.
Oui.
Alors ça, pour savoir comment marche une écriture de série, c'est vraiment une super série à regarder. Vraiment, pour comprendre comment ça marche, c'est génial.
Est-ce que tu avais regardé la série de Sorkin sur la création du Saturday Night Live like là?
Non.
Comment ça s'appelle,
Sunset Studio, c'était pas celle-là?
Si, c'est ça.
Ouais. Studio 54.
Studio... Non, oh putain.
Dans d'autres séries aussi qui m'ont ultra marqué. Ally McBeal.
Ouais.
Vraiment, mais donc là je parle de séries qui me marquaient vraiment. Ally McBeal.
Ah, c'est marrant, épisode. Oui,
épisode, c'est juste, j'y pense maintenant parce que on parle d'écriture et tout ça, et c'est une série sur les scénaristes. Je trouve que c'est pas facile d'écrire sur soi-même, mais là, je trouve que c'est très très réussi, quoi. C'est vraiment drôle.
Merci beaucoup, Marie.
Merci à toi.
C'est hyper intéressant, vraiment, de découvrir un petit peu les coulisses de ton métier, quoi.
Eh bien, merci.
Bah, pour les gens qui veulent aller découvrir ta dernière série, hein, surtout si vous écoutez dans les 28 jours
Non, mais il n'y en aura plus que 10, donc regardez, voilà. Regardez.
Allez donc voir Mixte. C'est vraiment super. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.